Voici donc ce soir la dernière émission de l'année 2011. Alors avant l'année nouvelle, nous recevons le dernier invité et à bord de notre wagon livre ce soir, j'accueille quelqu'un qui est déjà venu parler de ses ouvrages, c'est Barbara Moreau, dite Gadine. Bonsoir Barbara.
Bonsoir Yannick, bonsoir Radion.
Alors nous t'avions déjà accueilli en mars dernier pour le premier tome de ton recueil de chroniques qui avait pour titre « Je pars et je vous emmène ». Et ce soir, il va être question du deuxième volume de tes chroniques intitulé, sur le mode exclamatif, « J'arrive ». Alors voici donc Barbara Moreau, dite Gadine. Alors, pour te présenter à celles et ceux qui, à l'heure actuelle, ne te connaîtraient pas encore, je rappelle que tu es née à Auxerre en 1965, tu es un enfant unique, tu es fille unique, ex-professeur de lettres qui a dû, pour raison de santé, abandonner l'enseignement. Et finalement, dans mon introduction, je dis Barbara Moreau Gadine, est-ce que ces deux identités sont disjointes ou est-ce qu'elles se recoupent ?
Ben, c'est vrai que Gadine, c'est un surnom qui marque les gens. Les gens retiennent beaucoup ce surnom et ils m'appellent la Gadine. Moi, je m'appelle Barbara Moreau. D'ailleurs, il y a souvent des erreurs sur mon nom et donc j'en profite pour le dire. Hein. Mon nom, c'est Barbara Moreau. Gadine, c'est le surnom que me donnait mon grand-père et c'est un peu le nom du personnage que je me suis fabriquée à travers mes aventures dans la Nièvre. Mais je tiens beaucoup à mon véritable nom et mon véritable prénom. Voilà, c'est comme ça que je m'appelle et c'est comme ça que je veux qu'on me connaisse. Voilà.
Alors, Barbara Moreau, c'est le nom d'état civil et puis Gadine, c'est le nom de scène, c'est c'est à la fois la Barbara Moreau qui se met en scène dans ses livres, parce que tu vis tes livres.
Voilà, donc j'écris principalement des autobiographies. Donc les chroniques dont on parle me mettent en scène. Je suis partie dans la Nièvre présenter un spectacle, une tournée théâtrale comme les saltimbanques d'antan, de village en village. Et comme il s'agissait de trouver des dates pour tourner donc dans des villages, il a fallu que je mette tout ce projet-là en action, toute seule, sans vraiment beaucoup d'expérience. Et donc ça donne des aventures un petit peu cocasses. Et je me surnomme Gadine, ça me permet aussi une certaine distance avec les événements. Je suis à la fois Barbara Moreau, l'ex-prof qui a eu des problèmes de santé, et puis aussi la petite Gadine qui part à travers la Nièvre, qui veut réussir en tant que comédienne. Et voilà, je suis aussi un personnage.
Mais Gadine, c'est aussi un retour aux sources, c'est un retour à l'enfance.
Voilà, complètement. Et puis c'est aussi... c'est comme ça que mon grand-père me surnommait. Donc, mon grand-père, c'est le héros de mon œuvre, c'est le point de départ. Hein. Donc, quand je suis tombée malade, que j'ai arrêté l'enseignement, que j'ai commencé à écrire, hein, c'est ce grand-père qui m'est apparu et qui a été le détonateur. Le souvenir de mon grand-père a été le détonateur de ma nouvelle vie. Et j'ai écrit donc « C'est moi Gadine, c'est moi Gadine ». C'est comme si je frappais à une porte en disant ben, « c'est moi Gadine ». C'est comme ça que tu me surnommais, mon grand-père. Et voilà, donc c'est par rapport, oui, à ce souvenir de Pépé qui est revenu que j'ai retrouvé ce surnom.
Parlons un peu justement de ce Pépé Lucien. Donc ce grand-père que tu as peu connu et qui réapparaît nuitamment au moment, il y a quelques années, au moment de ta vie où tu es physiquement et moralement très affaibli et très isolé également, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ce pépé revient à la surface et c'est surprenant, c'est ça moi qui m'étonne, c'est que Barbara Moreau affronte l'avenir en puisant dans le passé. On a l'impression que le passé te propulse vers un avenir que tu assumes maintenant comme étant un avenir plus serein et plus heureux, ce qui n'a pas toujours été le cas apparemment dans ton parcours.
Oui, c'est vrai que c'est très curieux. On peut épiloguer longtemps hein, là-dessus. C'est vrai que
une nuit. Tu n'expliques pas cette, j'allais dire cette apparition inexpliquée dans ta mémoire peut-être affective. C'est quelque chose peut-être de l'ordre psychanalytique. Cette apparition de cette figure grand paternelle au moment où tu souffres.
Oui, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mon grand-père a beaucoup souffert aussi. J'étais à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire, je me sentais, comme tu l'as dit, très isolée, très seule. Et il a fallu donc que j'aille puiser jusqu'au fin fond de ma mémoire, que j'aille puiser dans mes racines pour trouver un soutien que j'ai trouvé.
Oui, mais ce qui est surprenant, je t'interromps Barbara, ce qui est surprenant, c'est un disparu, dans quelle mesure un disparu, un souvenir lointain, peut-il être une béquille lorsque soi-même on est dans une période de souffrance où l'on se sent abandonné et victime de l'injustice? Parce que c'est un point commun que tu as avec ce Pépé Couloutre. C'est le sentiment de l'injustice. Tu dis que tu es le fruit de cette injustice.
Oui, complètement. Mon grand-père était métayer. Il a été loué.
Dans la Nièvre. Hein,
il a été loué dans des fermes nivernaises. Il est allé à l'école jusqu'à 9 ans. Bon, il y a une figure aussi importante dans mon livre, c'est celle de Mignon. Donc, il a eu 4 filles, mon grand-père, et une autre petite fille, une cinquième, si on peut dire, qui est ma cousine, qui est Mignon. Et qu'il surnommait Mignon, donc. Et à l'époque où j'étais si mal, j'avais quand même un soutien, c'était celui de Mignon. Donc, j'ai pas seulement écrit à mon grand-père, pour mon grand-père, j'ai aussi écrit pour elle, peut-être pour la remercier d'être encore là.
Alors, ce grand-père était un homme modeste.
Ah, complètement, oui.
Un homme vraiment socialement très modeste. Un peu adversaire du progrès, hein. Il a mis du temps avant de venir un peu, un tant soit peu, à la modernité, un ronchon, un homme qui n'est pas forcément très sympathique. Et c'est marrant que tu as ce culte au grand-père.
Oui, c'est l'apparence qu'il avait, hein, quand on réfléchit, quand les années passent, quand on a été, qu'on a vécu, qu'on a connu. Aussi des souffrances dans sa vie, on se met à mieux comprendre, les gens. À un moment dans mon livre, je dis que je me mets à râler comme lui râlait. C'était un gros rouspéteur et moi aussi, on me dit souvent que je suis jamais contente, que je rouspète à la limite. Donc, les années passant, et ça le fait à tout le monde, je pense, on n'a pas eu le temps de comprendre les êtres proches, pourtant. On s'est pas vraiment intéressé à leur histoire, on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça, on n'arrive pas à décrypter leur silence. Et puis, c'est justement en regardant un peu mieux les photos. On voit bien sur les photos que je présente dans mon spectacle qu'il n'est pas si terrible que ça. Et puis, il m'a quand même donné un surnom. C'est moi Gadine. Enfin, Gadine. Donc, c'est aussi un genre d'adoubement dont je n'avais absolument aucune conscience.
Mais en te nommant, est-ce qu'il ne t'a pas aussi donné une existence, une reconnaissance et une identité?
Complètement.
En te renommant Gadine, il a recréé une petite fille qui n'était pas tellement, j'allais dire, tellement à l'aise au milieu des poules à la campagne. C'était la petite Barbara qui allait à Couloutre voir un grand-père rustre, un campagnard, la petite fille de la ville. Et Gadine est un personnage peut-être rêvé par le
Gadine, c'est un personnage un peu c'était le surnom de mon arrière-arrière-grand-mère, qu'il disait un peu méchante. Donc, faut remettre les choses dans leur contexte. Une femme méchante à cette époque-là, c'était certainement une femme qui ne se laissait pas faire. En tout cas, c'était quelqu'un. Et avoir retrouvé ce souvenir le souvenir de ce surnom, Gadine, qui était une femme dont on se souvient, une femme qui ne se laissait pas faire, ça m'a donné effectivement une certaine identité, une certaine fierté, une certaine dignité.
Et comme aussi une forme d'héritage.
Voilà, comme j'étais dans une période où justement je me sentais un peu victime de tout et victime d'une injustice, eh bien dire ben en fait je suis pas n'importe qui, je suis Gadine, c'était une manière de revendiquer mon existence et c'était une manière de dire que ben je ne me laisserai pas faire, je sais maintenant comment je m'appelle, comme dirait Anne Sylvestre, et voilà, maintenant il faut compter sur moi.
Alors, une femme qui ne se laisse pas faire, une Gadine qui se bat, qui combat, qui sait ce qu'elle veut pour mettre au point son spectacle. On évoquera le spectacle, le One Woman Show, oui. que tu as offert l'été dernier dans les communes de la Nièvre essentiellement, un petit peu aussi dans l'Yonne, bien sûr. Et on reviendra sur le contenu de ces chroniques, chroniques d'une conteuse de mémoire, J'arrive. Mais préalablement, nous marquons un premier intermède musical et nous nous retrouvons dans quelques minutes avec notre invitée ce soir dans Wagon Livre, Barbara Moreau.
Papier peint jauni qu'on a posé hier a tout écrit en lui, nos joies et nos colères, toutes nos intimités qui résonnent dans ses murs s'écrouleront un matin dans une dernière fêlure. Je ne change pas d'âge, je change d'adresse, je mets les souvenirs en cage, le temps d'un carton, d'une caisse. C'est des visages, des habitudes que l'on laisse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Cette photo jaunie qui m'accompagne encore me fait dire qu'aujourd'hui trier c'est du confort. Les miens levaient le camp dans les brouillards de l'aube, un piano sur une charrette entre espoir et exode. Je ne change pas d'âge, je change d'adresse, je mets les souvenirs en cage, le temps d'un carton, d'une caisse. C'est des visages, des habitudes que l'on laisse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Cette mèche jaunie que je serre si fort, celle de vies endormies quand mon jeune âge dort. Cet enfant repoussait les planchers, les plafonds, un rêve de liberté au-delà des maisons. Je ne change pas d'âge, je change d'adresse, je mets les souvenirs en cage, le temps d'un carton, d'une caisse. C'est des visages, des habitudes que l'on laisse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse.
choix musical de Barbara Moreau, on a pu entendre Francesca Solville. Alors Francesca Solville, une artiste, tu es dans l'ombre de ces artistes que tu rencontres, que tu croises, mais toi, Barbara, tu choisis une forme originale, tu veux être artiste, et ton identité, c'est de dire « j'arrive sur scène, je suis une artiste ». Je ne suis pas celle qui a seulement eu une maladie qui t'a privé de ton métier d'enseignante. Je suis une comédienne, je suis une saltimbanque.
Oui, je suis. je ne suis surtout pas effectivement quelqu'un qui est tombé malade et qui va en rester là. Avoir écrit et puis avoir voulu monter ce spectacle me permet de sortir d'un enfermement, de sortir d'une sale période. Je voulais pas rester comme quelqu'un de malade qui.
Tu ne voulais pas subir. Tu voulais être dans l'action.
Voilà,
prendre
complètement.
Prendre en main ton destin.
Bah, je pense qu'il faut prendre en main son destin. Ça fait pas forcément guérir. On gagne pas forcément le jackpot, mais en tout cas, on retrouve sa dignité. On ne me regarde plus comme on m'a regardé. On ne me parle plus comme on m'a parlé. Faudrait se remettre un petit peu dans le contexte, hein. Donc je suis tombée malade en 2005. Je m'habillais en 12 ans, hein. Mon fils avait 12 ans à l'époque et je pouvais porter ses habits. Ça donne un petit peu une idée de ce qui m'est arrivé. Mes indemnités d'éducation nationale ont dégringolé. On ne prenait pas en compte ma situation qui devenait vraiment catastrophique. On me répondait pas. Et puis il y a eu ce pépé. Et puis il y a eu les livres. Et puis il y a le spectacle maintenant. Donc évidemment, ça change tout.
Alors on va parler du spectacle. Mais d'abord, Barbara, j'aimerais que tu m'aides un petit peu à comprendre. Dans quel sens il faut prendre le titre du recueil des chroniques « J'arrive » sur le mode exclamatif. Voilà. C'est un triomphe, c'est une victoire, c'est l'annonce prometteuse d'une carrière d'artiste qui va continuer.
Alors, je crois que c'est deux choses. C'est le point d'exclamation de l'enthousiasme, parce que je suis malade, je suis toujours malade, hein, mais j'ai jamais été aussi bien dans ma vie, parce que grâce entre guillemets à cette maladie, je peux réaliser mes rêves, hein, des rêves que je portais en moi certainement depuis toujours, mais dont j'avais pas véritablement à ce point-là conscience. En tout cas, j'avais pas vraiment conscience de ma capacité à réagir, de mon talent. Je savais pas que je pouvais écrire des livres comme ça. Donc j'arrive, c'est l'enthousiasme. J'arrive, je vais concrétiser un projet. Je vais vivre enfin ce pourquoi je suis faite.
Et c'est j'arrive.
Et c'est aussi le défi.
Nièvre, c'est ça?
Voilà, c'est j'arrive en Nièvre. Et c'est aussi un défi, hein. Attention, j'arrive et j'ai une revanche à prendre sur.
Sur qui ? Sur quoi ?
sur ce que je disais tout à l'heure, sur la maladie, sur l'isolement. J'arrive et puis aussi sur. J'ai quelque chose à prouver. Je suis partie donc avec rien. J'ai pas de relation dans le monde du spectacle. J'ai accroché une carte Michelin au mur et puis j'ai pris mon téléphone. Je me suis fabriqué un petit décor de théâtre vraiment avec les moyens du bord et avec les conseils de quelques copains. Donc tout est vraiment fait de façon simple et sobre, et je prétends avec ça, avec rien, m'en sortir, vivre de tout ça et m'imposer en tant qu'artiste. Donc c'est un sacré défi, et puis si je gagne, ça veut dire que c'est quand même une bonne nouvelle pour la société. Ça veut dire que, ben, avec rien, on peut quand même, on peut encore, en 2011, on peut encore réaliser un rêve de saltimbanque. On peut encore imposer de la culture, de l'art, des souvenirs, une mémoire.
Et puis c'est aussi une aventure intellectuelle. C'est ce que tu dis, on peut vivre une aventure en allant dans les petites communes de la Nièvre.
Voilà, donc c'est vraiment tout à l'envers, parce que j'ai voulu jouer dans des petits villages où, ben, évidemment, les artistes ne vont guère, où il n'y a pas de subvention pour la culture, où ben, on n'a pas vraiment l'habitude de recevoir comme ça une comédienne, des livres. Les livres, ils arrivent pas dans les villages de la Nièvre, enfin difficilement, quoique on peut en reparler, c'est aussi une caricature. Eh bien, moi, je les amène, et c'est comme ça que je prétends réussir. Je vais pas à Paris, donc dans des grandes villes, pour revenir ici triomphante. Moi, je pars, je pars de ce qui me ressemble, de mes origines, hein, donc de la Nièvre.
J'arrive avec mon spectacle, avec mon spectacle, avec mon sourire,
voilà,
avec mon combat.
Et je vous assure que je vais y arriver. Et bon, ben, on peut pas dire que je sois arrivée vraiment, mais c'est vrai que les choses ont quand même beaucoup évolué pour moi.
Tu écris. C'est page 69 dans les chroniques, tu viens d'arriver, tu arrives dans la Nièvre et tu écris « J'ai senti que j'étais arrivé ». Et un peu plus loin, tu parles de la terre de tes ancêtres et j'ai l'impression aussi que ta démarche, c'est la reconquête. La reconquête, les retrouvailles avec tes origines.
Ah, complètement.
Hein. Donc tu arrives, tu veux arriver un peu aux origines.
Complètement. Il y a peut-être une revanche familiale aussi, la revanche du pépé qui était loué, qui était métayer.
Là, qui s'opposerait aux Moreaux Chaussettes, qui étaient des commerçants peut-être un petit peu plus aisés que lui.
Oh, je pense pas qu'il y ait une réelle opposition, mais c'est vrai que il y a aussi ma mère qui est très importante dans ce livre. Mmh. Donc ma mère, la fille de pépé, qui n'a pas fait d'études. C'est aussi une revanche pour elle.
D'ailleurs, le recueil de chroniques se termine sur le ventre maternel.
Voilà, complètement.
Et toi, tu donnes naissance à des livres et à des spectacles. Tu es la maman de tes livres. Tu parles de tes livres comme des orphelins que tu poses auprès des libraires.
Oui, oui. À la fin, ma mère tombe malade en juin 2010 et moi, il est prévu que je parte en juillet 2010 faire ma tournée. J'ai 14 dates et ma mère tombe malade juste au moment de partir, effectivement, et elle a quelque chose dans le ventre. Et en fait, c'est rien du tout. Donc oui, je termine ce livre par le fait que, eh bien, tout va bien pour le ventre de ma maman et je peux partir, j'arrive.
Mais une de tes chroniques s'intitule « L'instinct maternel ». Et tu parles de tes livres comme des orphelins. La maternité, la naissance, on sent que tu veux faire éclore à la fois des idées. Tu veux faire éclore tes projets, et il y a la maternité, il y a une sorte d'accouchement. Ce spectacle, tu l'accouches, peut-être pas dans la douleur, mais en tout cas dans les épreuves. Il y a un travail au sens presque gynécologique du terme, un oui. Accouchement qui se fait.
Oui, c'est pas très original, hein. Il y a beaucoup d'écrivains qui comparent leurs livres à leurs enfants. Peut-être que le point commun entre les deux, puisque je suis aussi maman d'un garçon, c'est que on supporte pas quand on est maman ou quand on est auteur qu'on dise du mal ou qu'on soit indifférent par rapport à nos livres ou nos enfants. On se transforme en bête furieuse si on attaque la chair de notre chair, et c'est un petit peu le point commun que je ferais entre mes livres et mon fils, et voilà la véritable maternité. Ceci dit, bon, entre guillemets, entre parenthèses, je donnerais tous mes livres, hein, pour mon fils. Restons quand même proche de, voilà, de la réalité. Je suis pas une extraterrestre avec ses bouquins. Voilà, je suis quelqu'un d'ordinaire. Voilà, mon fils, c'est mon fils, mes livres, c'est mes livres.
Je rappelle que vous êtes calé sur la fréquence de Radion. Vous êtes à bord de Wagon Livre, le magazine littéraire de votre radio locale. On se retrouve dans quelques minutes avec une pause musicale, un choix de notre conteuse de mémoire qui nous accompagne jusqu'à 22h sur Radion. On se retrouve d'ici quelques minutes. De Wagon Livre ce soir avec notre invitée, notre conteuse de mémoire Barbara Moreau, qui est auteure, écrivain et artiste et qui est ce soir devant notre micro pour présenter son recueil de chroniques intitulé donc J'arrive, c'est le livre 2. En 2012, nous aurons le livre 3. On aura vraisemblablement l'occasion d'en reparler. Et le moment est venu, Barbara, de parler un peu du spectacle. Alors, on peut donner déjà quelques informations. D'abord, signaler que le 14 janvier de l'année prochaine, tu vas jouer le spectacle qui a quel titre d'ailleurs ?
Toujours C'est moi Gadine.
C'est moi Gadine. Donc, spectacle que tu joues avec l'accordéoniste Frédéric Gâteau, que nous avons entendu il y a quelques minutes sur l'antenne de Radion. C'était notre intermède musical. Donc le 14 janvier, tu seras à Sens pour un spectacle que tu offres au profit des paralysés de France. Et puis, tu seras l'invité d'honneur du Salon du Livre de Valence le 4 février prochain. Alors, là aussi, à Valence, tu donneras le spectacle la veille de l'ouverture du salon organisé par le Judo Club de Charbus et Seignelay. Barbara, je vais t'inviter à nous lire un extrait, même une de tes chroniques dans son intégralité. C'est la chronique dans laquelle tu expliques l'organisation de ton spectacle, parce que finalement, jouer le spectacle C'est moi Gadine dans la Nièvre, c'est la promesse d'aventures cocasses, burlesques.
Oui, donc C'est moi Gadine, il a deux versions, je le précise maintenant. Donc il y a toujours le One Woman Show, où je joue toute seule avec le grand-père, qui est dans des cadres photos, donc c'est un dialogue à deux, donc avec une mise en scène très sobre, un dialogue un peu authentique. Et il y a aussi maintenant une version musicale avec un accordéoniste qui s'appelle Frédéric Gâteau, dont vous venez d'entendre la composition.
Donc le titre, c'est
qui s'appelle Rencontre.
Rencontre.
Voilà. Donc là, ce que je vais lire, eh bien, c'est en fait c'est le récit de mon premier spectacle avec les cadres photos. Donc j'avais été invitée en avril 2010. Avant que ne commence la tournée, dans un petit village à côté de Nevers qui s'appelle La Fermeté. Et bon, j'étais pas spécialement au point. C'était vraiment mon premier
les
spectacle.
Les balbutiements de Gadine.
Voilà. Donc puis ça donne des choses un peu drôles, oui, un peu burlesques. Alors c'est la chronique 22, Gadine et les éléments. Le 24 avril 2010, je finissais par charger ma voiture avec toute ma bricole bricolée par mes potes. Et me rendre à La Fermeté, une petite commune située à côté de Nevers. On vient à bout de tout, même d'important de chez Bricot. Premier départ, le soleil, encore lui, devant moi sur la route de Clamcy, puis plus loin jusqu'à destination. Premier spectacle, le paysage printanier au-dessus de la Nièvre, les bois de la région des Amognes, tout cet échantillonnage de vers éblouissants. Premier public, premier succès. Impossible cependant d'accrocher d'autres villages à cette locomotive. Saint-Jean aux Amognes, Saint-Bénin d'Asie, Chaugnes, Limon, Saint-Firmin, tous ces bleds alentours restent chez eux et personne n'est disponible dans cette province pour venir me rencontrer en vue d'un spectacle cet été. Ce serait trop facile, hein? Je joue sous les arbres, à côté du lavoir. Les villageois m'y retrouvent après une promenade à pied. Une petite brise tournoie au-dessus de ma tête, oh, trois fois rien en réalité, mais un souffle suffisant pour faire trembler les feuilles des tilleuls et se transformer en tornade une fois sur moi. Oh, je n'emmène pas large lorsque je m'assois pour dire une réplique et que j'entends dans mon dos le drap noir frissonner sous l'effet du courant d'air pris dans ses jupes. C'est tout Bricot qui menace de s'écrouler sur l'architecte. Un organisateur vient se placer derrière l'édifice. Par chance, la création tient bon jusqu'à ce que, pour une raison inconnue, un gamin se mette en tête de décrocher un portrait de Pépé et de s'enfuir avec. Le vent redouble, le chevalet et le paravent finissent emportés par une bourrasque. Je crie qu'on veut me voler mon grand-père et qu'il n'est pas content. On rit. Les organisateurs se précipitent pour tout remettre en place. Fab saura bientôt que j'ai un autre petit problème, qu'il faut lester le matériel. J'étais là, les bras tendus sur la barre du portant de chez Bricot, transformé en char à voile, comme un petit Jésus à l'envers sur sa croix. Mon corps fragile, qui se surveille constamment pour ne pas buter contre une chaise, accrocher un cadre photo et ainsi faire s'écrouler le décor, s'est mis en rempart contre les éléments contraires et m'a révélé sa puissance. Mon corps fragile me dit qu'on s'en sortira, et je le crois.
C'est donc une des 36 chroniques que l'on trouve dans ce recueil intitulé « J'arrive » aux éditions Kikebab, lu par notre invitée Barbara Moreau. Barbara, qu'est-ce qu'une conteuse de mémoire ?
Alors, on peut dire que déjà, conteuse de mémoire, il y a quelque chose d'un peu dissonant, parce que le conte raconte une histoire fictive, alors que je prétends, moi, raconter des choses vraies, qui font appel à la mémoire. Je parle de mon grand-père, je parle de son petit village. Donc, je fais de ce passé quelque chose qui se raconte, quelque chose qui s'écoute comme une histoire, comme un conte de fées. Et ça parle aux gens parce que les gens, en fait, quand on leur parle de ces souvenirs-là, eh bien, ils se retrouvent dans la position de petits-enfants à qui on raconte des histoires merveilleuses de leur propre passé qu'ils ont connu, mais qui ont disparu et qu'ils revivent. Alors, c'est vraiment, voilà, c'est magique.
Tu écris, page 15 très précisément, que la modernité perd la mémoire. Et tu dis un peu plus loin, « Je suis la messagère d'un temps » qui refuse de mourir. J'allais dire, est-ce que Barbara Moreau ou Gadine ne parviennent pas à s'adapter à la modernité ?
Oh si, tout à fait. Je suis quand même de mon temps, bien sûr. Mais Je suis la messagère d'un temps qui refuse de mourir. Ça, je l'ai constaté. On vit à 100 à l'heure. On n'a pas le temps de se voir. Les liens se distendent entre les gens. Les relations de voisinage ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Et pourtant, quand je fais des spectacles, eh bien, je vois bien que ça fait écho, que les gens sont encore accrochés à leurs souvenirs. Et voilà, c'est un temps qui n'est pas mort, qui ne veut pas mourir.
Alors effectivement, tu fais des spectacles, tu proposes tes spectacles pour un public donc de villageois, essentiellement en Nièvre, en tout cas en ce qui concerne ce volume intitulé « J'arrive ». Tu écris « Les vivants aussi méritent quelques hommages » et j'aimerais, parce qu'il y a une scène émouvante, page 135, où tu te rends au cimetière de Couloutre. Alors, ça c'est une question, j'allais dire, très personnelle. Qu'est-ce que tu dis à ton pépé Lucien de Couloutre lorsque tu es devant sa tombe? Peut-on savoir?
Ah là là. je m'attendais pas vraiment à cette question. En fait, qu'est-ce que je lui dis?
Je continue devant la tombe, devant sa tombe.
Je continue en fait le dialogue, parce que c'est pas quand j'arrive spécialement devant la tombe que je me mets à lui parler, et sans lui parler à d'autres moments. Qu'est-ce que je lui dis?
La question est volontiers posée pour.
Je lui demande s'il est fier de moi, des choses comme ça. Je lui dis tu vois. On va réussir.
Est-ce que ce pépé a envie qu'on l'admire? Cet homme modeste, humble, aurait-il aimé être comme ça, l'homme au cœur d'un spectacle?
Comment savoir? C'est vrai que mon grand-père, il aimait pas tellement voir du monde. Donc c'est pas vraiment l'anonymat que je lui propose. Je pense que de toute façon, j'ai l'impression qu'il veut que je m'en sorte, que voilà, que s'il a quelque chose à voir dans ma nouvelle vie, eh bien c'est ça. Moi, je le sens quand même complice. Alors c'est peut-être une histoire que je me raconte, hein, sans doute. Mais oui, je le sens complice, puis de toute façon, oui, puisque ça marche, c'est qu'il est d'accord.
On se retrouve dans quelques minutes, un nouvel intermède musical, un choix de notre invité Barbara Moreau ce soir pour évoquer les chroniques d'une conteuse de mémoire, le livre 2 intitulé « J'arrive ».
Y aurait-il des soleils denses de 12 mois, hiver, été, menant la danse, frères siamois. Y aurait-il des saisons mêmes, hors de saison, si tu n'étais toi, toi que j'aime, dans ma maison? Y aurait-il des matins tendres à s'éveiller, des matins que l'on fait attendre sur l'oreiller, avec des émois de baptême, thème des mois? Si tu n'étais toi, toi que j'aime, dans mon chez-moi, y aurait-il des fruits aux branches de nos desserts, et des éclats de rire aux hanches de nos concerts? Aurais-je des goûts de poème, à tes genoux. Si tu n'étais toi, toi que j'aime, dans mon chez-nous, y aurait-il des mots sans suite enfin, avec tant de bonheur ensuite, suite sans fin. Tant oui, tant de bonheur que même nos corps se nouent. Si nous n'étions toi, moi qui s'aime, tous deux dans.
À l'instant, vous aurez reconnu Jean Ferrat et le titre « Y aurait-il ?». C'est un choix de notre invité ce soir dans Wagon Livre. Et notre invité pour cette dernière émission de l'année 2011, c'est notre conteuse de mémoire, Gadine, alias Barbara Moreau, ou Barbara Moreau, alias Gadine. Et justement, Jean Ferrat est très présent, Barbara. On sait que Jean Ferrat a énormément bercé ton enfance. Hein. On écoutait beaucoup les vinyles de Jean Ferrat lorsque tu étais petite fille. Et Jean Ferrat, la transition va être assez facile, chante notamment une chanson célèbre qui a pour titre « Je ne chante pas pour passer le temps ». Mais j'ai envie de dire que Barbara Moreau n'écrit pas pour passer le temps, parce que derrière l'acte d'écrire, Barbara, eh bien, l'ancienne professeure de lettres attribue une fonction bien spécifique à l'écriture. Et notamment, tu dis dans ton recueil de chroniques « Moi, j'engage ma vie, je viens défendre ma peau. » C'est un programme bien ambitieux.
Ah mais oui, mais je ne retire rien et c'est toujours le cas. Je vais vivre bientôt de mes livres. Donc j'étais prof et puis ben voilà, comme je n'enseigne plus, il va falloir très très prochainement que je ne vive plus que de ça. Mais c'est même au-delà de ça, c'est plus fort que moi. Écrire, il n'y a pas d'autre sort pour moi.
Ah, un beau clavier à l'exposition.
Je sais pas si je ressens exactement la même chose que Colette quand elle a dit cela. Peut-être, oui, c'est. Quand on est fait pour quelque chose, on irait jusqu'au bout. Moi, à un moment avec l'éducation nationale, il était question que je reprenne quand même un poste sans enseigner, un poste un petit peu dans un placard ou dans un autre ministère. Je crois que je serais allée jusqu'à la démission. J'ai qu'une vie, je veux pas la, il faut que j'écrive, il n'y a pas d'autre sort pour moi.
C'est la raison pour laquelle.
Comment l'expliquer? C'est en moi, c'est voilà, j'engage ma peau, c'est vraiment ça.
Et un peu plus loin, dans les chroniques, Barbara, tu écris « La littérature rend insubmersible ».
Voilà, ça sera peut-être encore plus explicite dans le livre suivant, qui racontera la tournée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il peut m'arriver n'importe quoi. Moi, il faut quand même que je sois prudente avec ce que je dis, mais du moment que je puisse l'écrire, je transcende les petites catastrophes. Là, le passage que j'ai lu avec le vent qui souffle dans mon décor, on imagine un petit peu. C'est quand même la panique. C'était mon premier spectacle. Tout s'envole. Un gamin qui part avec mon cadre photo. Il fallait quand même que ça marche. C'était mon premier spectacle. Après, quelle réputation j'aurais eu dans la Nièvre. Mais instantanément, je me dis quand je vais raconter ça, ça va être génial. Ça me rend insubmersible. Ça veut dire que grâce à l'écriture, il peut m'arriver beaucoup de choses. D'ailleurs, il me sont arrivées beaucoup de choses puisque il y a eu la maladie, il y a eu tous les soucis que j'ai eus, que j'ai écrits. Et je n'ai pas coulé. Je n'ai pas coulé parce que j'ai pu écrire tout ça.
Tu ne veux pas couler et tu désires surtout dire la vérité. Et tu poses la question de la fonction de l'acte d'écrire lorsque tu interroges le lecteur, le prenant à témoin, est-ce que j'écris pour être sympathique ?
Oui, enfin la vérité, je la détiens pas forcément. C'est pour ça qu'il y a souvent plusieurs voix dans mes chroniques. Hein. Il y a des voix qui me parlent parce que une chose, on peut dire d'une chose plus.
Il y a des modérateurs de temps en temps.
Il y a des modérateurs, voilà.
Calme-toi, tu t'emportes.
Voilà.
Ne sois pas furieuse. Maîtrise-toi,
ne pense pas ceci, et si tu pensais plutôt à cela. J'aime pas les gens pétris de certitude. On peut examiner une chose sous plusieurs angles, c'est ce que j'essaye de faire. Par contre, bah oui, il y a la manière de dire, c'est vrai que même si on écrit ce qui ne va pas, bah des fois on pourrait se laisser submerger par la colère, hein, et on a envie de, bah oui, on a envie de se venger avec sa plume, de balancer des noms, de dire voilà un tel ou telle association qui prétend aider les autres ne m'aide pas, et puis voilà, se laisser emporter, et là on serait pas vraiment sympathique parce que les gens ils aiment pas trop ça, ça fait un petit peu vengeance, donc on a recours à l'humour, au modérateur, pour être quand même poli et sympathique, et effectivement on se pose la question, mais au fait est-ce que j'écris pour être sympathique? Je crois que peut-être qu'un jour je serai plus du tout sympathique, mais
l'essentiel, c'est de trouver l'équilibre. D'ailleurs, la deuxième chronique sur les 36 s'intitule « Gadine équilibriste ». Or, finalement, Barbara, un livre, c'est une sculpture qui doit tenir debout. Et le spectacle, il doit aussi tenir debout, comme Gadine ne veut pas basculer. Elle veut rester droite, digne et fière. Et c'est une belle sculpture, ce recueil de chroniques. On va se quitter quelques minutes, le temps de nous offrir une petite séquence accordéon. C'est donc un morceau que l'on peut entendre dans ton spectacle, un morceau d'accordéon interprété donc par l'artiste qui t'accompagne, hein, dont on va rappeler le nom, Frédéric Gâteau, et on se retrouve dans quelques minutes pour conclure. Et le titre du morceau s'intitule « Avant l'orage ». Barbara Moreau en notre compagnie ce soir dans Wagon Livre pour terminer agréablement l'année 2011. Barbara Moreau, qui est conteuse de mémoires, auteure et artiste, auteure d'un recueil de chroniques qui s'intitule « J'arrive » avec un point d'exclamation. Nous avons parlé effectivement de la fonction de l'écriture. Alors Barbara, il est clair que la maladie t'a fait découvrir les plaisirs de l'écriture, le jeu de l'actrice dans un one-woman show ambitieux ou seul sur la place du village, un spectacle gratuit à l'issue duquel on tend le chapeau et où, comme au XVIIe siècle, le bon peuple rassemblé donne une petite pièce pour saluer et féliciter l'artiste. Ce qui m'a beaucoup plu dans tes chroniques, et tu sais combien je les apprécie, ce que j'aime, c'est le ton qui domine ces chroniques, c'est-à-dire tout de même, ce qui semble être ton autre canne, c'est la dérision, l'autodérision. Tu as une manière de te moquer de toi, de mettre en valeur tes travers avec beaucoup de sympathie et d'humour, et ça te rend toujours plus sympathique. Et je crois que tu fais de nous d'éternels complices.
Oui, c'est malin de ma part. Hein.
La diablesse.
La diablesse. Oui, j'essaye d'être honnête dans ce que j'écris, dans ce que je suis. Donc, j'essaye de pas me prendre au sérieux et d'être complice avec les gens. L'humour, l'ironie, la dérision, ça permet de mieux faire passer les choses. On peut pas faire un livre de colère, c'est pas possible. Et pourtant, de la colère, il y en a, mais il y a un petit maquillage d'ironie et d'humour.
Mais ton énergie ne vient-elle pas de cette colère rentrée? Et justement, cette colère, tu en fais de l'or, tu en fais justement des mots, des chroniques, des spectacles. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu le moteur de cette aventure intellectuelle et artistique?
La colère, elle m'arrête hein, des fois, par contre. Mais il faut vraiment que je la domine. Un moteur, je pense pas vraiment que ce soit un moteur. La colère, elle a tendance à me freiner et je dois souvent me battre contre elle. Et Dieu sait que j'ai encore des sujets de colère malgré le succès grandissant de ma petite entreprise. J'ai encore pas mal de sujets qui me fâchent et qui me ralentissent.
L'heure tourne, Barbara. On parle de colère. Tu en éprouves parfois à l'égard de celles et ceux qui accueillent ce que tu appelles tes enfants, tes gamins, c'est-à-dire les livres que tu leur confies dans le but de les vendre. Et il y a une scène auprès d'une dame que l'on prend un peu en pitié. Je ne dis pas non plus que tu te déchaînes sur elle, mais là, tu as un moment de colère lorsque tu viens prendre des nouvelles des ventes, en fait, et cette dame te reçoit avec un sérieux manque d'enthousiasme, et là, tu réagis avec une pointe de colère.
Oui, alors, je suis obligée de faire des généralités. Hein. Pardon à Monsieur Plume et Madame Image, par exemple.
Donc ce sont les libraires.
Ce sont les libraires de Tonnerre. Sylvie, pardon à d'autres. Je peux pas citer tout le monde, mais c'est vrai que parfois, quand on arrive dans une librairie avec ses livres sous le bras, eh bien, on n'est pas toujours bien reçu parce qu'on n'est pas étiqueté Gallimard, parce que on n'est pas trop connu, et puis on arrive des fois avec une canne, on tremblote, ça fait pas, je dois pas avoir l'air écrivain, je dois pas avoir le look, et je sais plus si c'est toi Yannick, tu m'as demandé si c'était vrai cette scène.
Oui, tout à fait.
Cette scène à Cône-sur-Loire. Donc vraiment Cône, c'est à côté de chez mon grand-père. J'étais persuadée que mes livres allaient marcher là, et puis pas du tout. Alors j'envoyais souvent des petites affiches, je téléphonais et j'avais vraiment l'impression d'ennuyer le monde. Et puis un jour, faudra lire la chronique. Hein, un jour j'y suis allée, j'ai demandé à m'expliquer avec la patronne, et ça s'est terminé qu'elle s'est mise à pleurer. Donc, le bourreau est devenu victime. Enfin, donc, ça a donné lieu à une anecdote cocasse.
tout est prétexte à des chroniques maintenant.
Ah ben complètement, et c'est vrai que maintenant je commence à avoir l'esprit envahi par ça. Je me promène dans la rue et je me dis bah tiens, ça, cette pensée là ou voir telle ou telle chose, j'en ferai bien une chronique.
Alors on ne peut pas évidemment évoquer les différentes facettes des aventures de Gadine qui retrouve la terre de ses ancêtres à travers son One Woman Show dans la Nièvre. Il y a des pages savoureuses sur les salons du livre, tes rencontres des people, avec aussi une sorte de beaucoup d'humour et de dérision. C'est le fil conducteur, je crois, de ces chroniques qui sont si agréables, et tu sais combien je les apprécie. Alors tu rencontres Zappy Max, André Gaillard, Grâce de Capitani, Chantal Goya, il y a la chanteuse Annie Gould. On apprend que tu as joué devant Marc Blondel aussi.
Oui, ces chroniques, c'est aussi on peut aussi apprendre à se connaître, parce que on a beau être révolté, vouloir s'en sortir avec les moyens du bord, quand on rencontre Grâce de Capitani, ben en fait on est tout bête et puis on tombe dans certains travers. Elle a voulu copiner avec moi et puis moi j'ai offert un livre. Et d'ailleurs je dis qu'elle vraiment c'est vraiment malin d'offrir des livres à des gens qui ont les moyens de les acheter. Voilà, donc c'est aussi une épreuve pour soi-même. Hein, on se teste soi-même et on n'est pas parfait. Hein, je le dis. Je suis pas parfaite, moi aussi je me fais avoir.
Eh bien, Barbara, je te remercie, on est au terme de l'émission. Un dernier petit mot ?
Oui, je voudrais souhaiter une bonne année 2012 à Wagon Livre, qui est une émission formidable.
Merci.
Voilà, c'est l'émission littéraire de Lyon. Voilà, merci.
Puisse-t-elle encore durer beaucoup ? Je crois qu'on peut faire un petit coucou à Chris Flamand.
Oui, c'est lui qui a illustré mes livres, celui-là en particulier.
Chris Flamand, voilà. Graphiste et auteur de bande dessinée. Il y aura d'ailleurs une grande exposition qui leur sera consacrée, les Flamands père et fils, à la bibliothèque municipale d'Auxerre dans le courant de janvier 2012. Voilà. Je rappelle que pour apprécier les chroniques de notre invité, eh bien plongez-vous dans le recueil J'arrive, les chroniques de Barbara Moreau aux éditions Kikebab. Excellente fin d'année à toutes et à tous. Encore merci Barbara. On salue toutes les auditrices et auditeurs et on leur donne rendez-vous l'année prochaine. Prochain numéro de Wagon Livre, le 4 janvier prochain à 21h. Un entretien avec Violette Cabezos pour La Parole Perdue, un roman paru aux éditions Albin Michel, un entretien réalisé lors du Salon du Livre Livres en Vigne en septembre 2011 au château du Clos de Vougeot. Bonne soirée à toutes et à tous et merci. Bonne fin d'année Barbara et merci.
Au revoir.